Quand tous sont prêts pour la fête, c'est Noël. Quand les gens se donnent la main pour faire la paix, c'est Noël. Quand on accueille l'étranger, quand on s'aide les uns les autres à éviter le mal, à faire le bien, c'est Noël. Noël, c'est essuyer les larmes, c'est partager ce qu'on a avec les autres, c'est adoucir la misère d'un malheureux. Sur la terre, c'est Noël chaque fois qu'on montre un peu d'amour, que les cœurs sont heureux. Alors Dieu redescend du ciel pour apporter la lumière. Je vous invite à vous lever. Ô Père, tu as mis au monde ton Fils, il est notre salut. Alléluia. Ô Jésus, Fils du Père, tu as partagé notre vie jusqu'à son terme. Alléluia. Ô Saint-Esprit, tu fais naître en nous la joie et la reconnaissance. Alléluia. Et je vous invite à chanter « Nous voici rassemblés en ton nom ».
Rassemblés en ton nom, Seigneur, pour te louer. Alléluia, alléluia, nous vivons. Alléluia, alléluia, glorieux par notre chant. Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'adorer, Jésus Sauveur.
Nous louons Dieu avec le psaume 84. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers? Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu as la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob, Dieu, vois notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Amen. Il propose de chanter les strophes 1, 2 et 4, 1, 2 et 4 du psaume 92. Oh, que ces choses belles, page, je n'ai pas noté, 92, 106.
Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, et chanter ton âme d'un cœur fidèle. Viens ta naître, ta profitable et ta fidélité quand la nuit va paraître. Profonde, plus il les tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant. On le voit rayonnant comme un cèdre. Ta gloire et sa richesse sont dormis ta maison. Tes fruits chaque saison comblent leurs jeunesses.
Prenez place. Nous plaçons notre vie sous le regard de Dieu. Oui, Seigneur, tu t'es abaissé pour venir nous rencontrer dans notre humanité. Et nous croyons encore que ce sont nos propres forces qui sont importantes. Nous faisons confiance à nos mérites, à nos bonnes actions, à notre intelligence. à notre argent. Toi qui es venu combler les humbles et renvoyer les riches les mains vides, regarde toutes les fausses richesses qui nous éloignent de toi et des autres. Apprends-nous cette pauvreté, cette simplicité, cette humilité dans laquelle tu nous rejoins, dans laquelle tu nous combles, dans laquelle tu nous déclares bienheureux. Débarrasse-nous de tout ce qui nous éloigne de ton évangile, afin que nous puissions vraiment vivre ce royaume que tu annonces. Amen. Nous restons assis pour chanter Jésus le Christ, lumière intérieure.
Ténèbres me parler, Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres en nous.
L'ange a annoncé au berger: n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né votre Sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Dieu nous accueille et nous pardonne en Jésus-Christ. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter « Tu consoles, tu pardonnes ». Pardonnez et libérez. Écoutons ce que Dieu nous demande et nous donne la force de faire. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne convoite pas » ceci et tous les autres se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Transmet la nouvelle. Prenez place. Pour aujourd'hui, j'ai retenu une des lectures proposées, celle de la première épître de Jean. Alors, je l'ai un peu étendue à ce qui se précédait, et on l'a fait en deux fois. Donc, nous allons lire la première épître de Jean, chapitre 3, d'abord les versets 11 à 17, puis les versets 18 à 24. Mais avant, nous prions. Père, par une étoile, tu as appelé les mages à chercher ton fils bien-aimé, et par la parole du prophète, ils l'ont trouvé et adoré comme leur Seigneur. À nous aussi, fais connaître ta parole, afin qu'elle nous conduise au Christ, comme l'étoile a conduit les mages. Donne à celles et ceux qui n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle de la découvrir à leur tour, et d'accueillir avec joie celui que tu envoies, Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Jean, chapitre 3, nous lirons du verset 11 au verset 17. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Jean, chapitre 3, nous lirons du verset 18 au verset 24. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que nos cœurs et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné.
Entends la voix de Dieu. Soit. Frères et sœurs, nous sommes en une période où il est de bon ton de chercher des résolutions pour l'année à venir. Oui, je sais bien que cette habitude est un peu passée de mode et que la plupart du temps, les bonnes résolutions de début janvier sont abandonnées avant la fin du mois. Néanmoins, ce choix de résolution, ce désir de s'améliorer, nous oblige à rechercher nos défauts et donc à pratiquer la bonne vieille introspection protestante, un peu trop tombée à mon goût en désuétude parmi nous. Quelle résolution prendre? Cela dépend évidemment de chacun, de chacune de nous. Mais il y en a une que je porte à votre attention, à laquelle je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, de vous atteler. Je parle de vous débarrasser de ce poison qu'est la culpabilisation de soi, l'auto-culpabilisation. Que d'autres cherchent à nous culpabiliser pour nous manipuler, c'est déplorable, mais inévitable. Que nous cédions parfois à ces pressions, c'est regrettable, et nous pouvons y travailler. Avec un peu de recul et de bon sens, cela se soigne très bien. Mais il faut se rendre compte que notre pire ennemi, c'est bien souvent nous-mêmes. En 1983, le psychologue, psychothérapeute, psychanalyste jungien et sociologue, merci Wikipédia, Paul Vaslavski, non, Vaslavik, publiait en anglais un livre en anglais dont la traduction littérale serait quelque chose comme « La situation est désespérée, mais pas grave, la poursuite du malheur », qui parut l'année suivante en français sous le titre amusant de « Faites vous-même votre malheur ». Au-delà de la thèse développée dans le livre, au-delà de son contenu, le titre me paraît délicieusement provocateur et assez révélateur d'une réalité. Nous sommes souvent nous-mêmes la cause de notre propre malheur. Vous seriez en droit à ce que je vous dise que la foi, le message biblique, nous évite de culpabiliser. Mais malheureusement, c'est plus compliqué que cela. Dans un autre ouvrage américain, beaucoup moins sérieux, qui s'appelle « Journal intime d'un chrétien chaotique », l'auteur-narrateur, Adrian Place, assiste au culte et se demande pourquoi Dieu a réuni tant de gens différents. Parmi les gens qui sont là, il y a son ami Léonard Trimouille, qui a, lui, de gros problèmes d'alcoolisme. Il écrit donc ceci. Au culte, aujourd'hui, nous avons pris la Sainte Seine alors que nous attendions que passe le pain et le vin, je n'ai pu m'empêcher de regarder autour de moi et de me demander pourquoi Dieu nous avait tous rassemblés. En tout cas, je suis content qu'il l'ait fait. J'ai senti une boule monter dans ma gorge quand j'ai vu le brave Trimouille fermer fortement les yeux au moment où il prit la coupe et qu'il a bu à la fois son problème et sa solution. En ce qui concerne la culpabilisation, la pratique de religion chrétienne, protestante, peut être à la fois le problème et la solution. Un paroissien et ami me faisait malicieusement remarquer que dans la structure habituelle d'un culte, on invoquait la présence de Dieu au début, au moment des lectures, et le cas échéant lors de la scène. Et que cette répétition de l'invocation laissait entrevoir un manque de confiance dans la présence de Dieu pendant nos cultes. Il va de même en ce qui concerne la culpabilité. Nous nous confessons au moment de la confession du péché, ce qui est logique. Elle revient souvent lors de la scène. Et parfois aussi dans la prière d'intercession, où nous reconnaissons que les malheurs des autres sont peu ou prou les conséquences de nos propres fautes. Et je ne vous parle même pas des cas où la prédication est, volontairement ou non, culpabilisante. Or, si notre liturgie a placé la confession du péché au début de notre culte, c'est justement pour qu'on s'en débarrasse et qu'on passe à autre chose durant le culte. Simplement voilà, on nous a tellement mis en garde contre la figure du pharisien, celui qui se croit, ou qui est d'ailleurs, juste, et qui finalement, par sa justice réelle ou supposée, n'a plus besoin de la grâce de Dieu, qu'on est tombé dans l'excès inverse. Si la bonne conscience peut être un mépris de la grâce, se focaliser constamment sur notre faute en est une autre forme de mépris. Se définir toujours comme pécheur, c'est mépriser la grâce de Dieu. Et l'extrait de la première épître de Jean que nous venons d'entendre vient même nous délivrer de la tentation de culpabiliser du fait de ne pas culpabiliser. Alors, on en est capable. On est capable de grandes choses. Il ne faut jamais douter notre capacité de culpabilisation. Comme le dit la blague, on est capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire qu'on est le meilleur. Une longue tradition de la culpabilisation dans nos églises a fait du message évangélique à la fois un remède et un poison. Ne dit-on pas d'ailleurs que c'est la dose qui fait le poison ? Et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, cet aphorisme est valable. Comment donc éviter à la fois la bonne conscience tranquille et la macération autodestructrice, toutes deux mépris de la grâce divine ? Une fois de plus, la réponse se trouve dans le fait de se décentrer. Nous ne sommes pas le centre du monde. Être chrétien, c'est au contraire assumer que le centre du monde nous est extérieur, puisque c'est Dieu. Mais que ce n'est pas un centre du monde lointain. C'est un centre du monde qui peut aussi être en nous. Ainsi, ce n'est pas nous qui décrétons ce qui est juste ou non, ce qui est bien ou mal. Par conséquent, nous ne sommes pas notre propre juge et notre salut futur ne dépendra pas de l'indulgence ou de la sévérité de ce juge interne. Je précise au passage, à toutes fins utiles, que nous ne sommes pas non plus autorisés à juger les autres. Mais ça, je pense que vous le saviez déjà. Être indulgent avec ou sévère avec nous-mêmes ne nous apportera aucune justification le jour du jugement. Il y a dans le journal intime mentionné plus haut la description d'un groupe paroissial qui s'appelle les Sentinelles de la pureté, dont la mission, selon l'auteur, est de rechercher des choses à faire interdire. S'il existe de tels groupes, n'en faisons pas partie. Et surtout, ne les laissons pas entrer dans notre tête. L'introspection protestante consiste à être honnête avec nous-mêmes et devant Dieu sur notre vie morale et spirituelle, et non pas à chercher obsessionnellement des trucs à nous reprocher. Certes, cette honnêteté interdit tout laxisme ou contentement médiocre, mais il ne nous pousse pas à faire comme Job des sacrifices juste au cas où on aurait oublié un péché ou ignorer que c'était un péché. N'oublions pas non plus que cette introspection ne préjuge en aucun cas de notre salut éternel, mais a une forte influence sur notre salut quotidien, c'est-à-dire notre capacité à mener une vie véritable devant Dieu et devant les humains aujourd'hui. Mais elle n'est que le début. Je me rappelle une discussion avec un membre de ma famille qui se lamentait que nous autres, les protestants, non pas nous autres, parce qu'il en était parti, que nous, les protestants, nous sentions toujours coupables. Je lui faisais remarquer alors qu'il avait abandonné la dimension spirituelle du protestantisme pour n'en garder que la dimension culturelle. En conséquence, il mettait honnêtement au jour ses fautes sans avoir quiconque pour les lui pardonner. En effet, l'introspection n'est rien. Elle est même toxique si nous ne disposons pas de la certitude de la grâce de Dieu. Vous connaissez la phrase de Luther qui dit que le chrétien est « simul peccator et justus, ac semper repentens », donc à la fois pécheur et juste, et toujours repentant. On a probablement pris ce « toujours repentant » un peu trop au pied de la lettre. Il est surtout là pour nous signifier que le phénomène de la grâce est à demander et à accepter continuellement, qu'il n'est pas accepté une fois pour toutes dans notre vie. Ce « toujours repentant » n'est pas là pour nous pousser à une vie médiocre et triste. Regretter son péché, c'est normal, c'est bien. Que des remords ou des regrets viennent taquiner notre bonne conscience, c'est sans doute inévitable. Mais leur donner le pouvoir d'influencer notre relation à Dieu, c'est oublier la grâce. Jésus parle plusieurs fois dans ses paraboles de la joie du débiteur à qui l'on remet sa dette. De même, la grâce qui n'est finalement que la remise de notre dette spirituelle peut et devrait provoquer en nous de la joie plutôt que de la tristesse. Cette joie est susceptible de nous sortir du meurtre spirituel du frère ou de la sœur, qui est la comparaison et la compétition spirituelle. Je ne suis ni plus ni moins sauvé que mon frère ou ma sœur, mais je peux vivre plus ou moins ouvertement de cette grâce. Que votre cœur vous accuse ou qu'il ne vous accuse pas, vous êtes au bénéfice de la grâce. Ne souffrez pas de la présence ou de l'absence de ces critiques internes. Remettez-les à Dieu et continuez à aimer votre prochain. C'est là le signe extérieur d'une grâce vécue. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Je vous invite à chanter le 32-22 « Au peuple fidèle », page 372. 372. « Au peuple fidèle ». Votre foi la donne. Nous restons debout pour confesser la foi. Et je vous propose de prendre le numéro 6 dans votre... qui commence par « Jésus de Nazareth nous a révélé Dieu ». Jésus de Nazareth nous a révélé Dieu, le Seigneur tout amour. À sa suite, j'appelle Père celui qui est le Créateur du monde et le Sauveur de tout ce qui vit. Son Esprit nous rassemble aujourd'hui dans la louange, nous éclaire par l'Évangile, nous met en route dans le service de nos frères et sœurs et nous conduit vers le royaume de Dieu. Amen. Chaque jour de ma vie. Prenez place. Seigneur, nous nous présentons devant toi et nous avons tout reçu de toi et c'est maintenant le moment où nous te rendons grâce en te montrant que nos biens t'appartiennent. C'est le temps de l'offrande, le moment du don. Seigneur, avec l'offrande que voici, nous élevons nos mains pour te rendre grâce. Apprends-nous à la partager avec ceux que tu nous as confiés. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces ? Oui ? Je t'en prie.
Bonjour à chacun, mais merci de votre présence. Merci. Marie-Vonne, là-haut ?
Marie-Vonne, là-haut, oui.
Oui, j'ai reconnu...
Le style.
Le style, donc voilà. merci à Yvon Serge de nous avoir accueillis ce matin. Cette semaine, c'est un temps de vacances. Si y en a qui me disent qui veulent être là mercredi, on peut faire un temps de prière, si vous voulez. Voilà. Sinon,
mercredi, c'est le premier. Hein.
Voilà, c'est le 1er janvier, donc voilà. Donc, ou éventuellement, si vous voulez venir prier à l'échauve, je vous invite. Voilà.
Deux enterrements cette semaine.
Vas-y.
Alors, que je ne me trompe pas. Le 31, à 14h, au crématorium de la Balme de Sillingy. Il s'agit de Madame Casimir, Alors, c'est une dame qui, elle et son mari, le mari est toujours vivant, ont participé à la vie de la paroisse. Ils ont fait la catéchèse notamment. Mais je vois que quelques-uns, mais les mémoires partent vite, hein, c'est assez dramatique. Voilà, cette dame est décédée, elle s'est éteinte, comme on dit. Voilà. Donc, et le vendredi, c'est le 3, ici au temple à 10h, il y aura le service funèbre de Violette, le nom de famille m'échappe. Joanne. Qui a fait partie notamment de l'orchestre dans les cultes famille et d'autres activités de la paroisse. De la chorale aussi.
Oui,
de la chorale, oui. Donc elle, c'était plus brutal, c'était plus, on est un peu plus surpris, quoi.
Donc sinon, cette semaine, il y a samedi le concert.
Carte blanche.
Carte blanche aux musiciens de la paroisse, voilà, à 17h15, 17h30, pardon. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc, c'est les deux derniers jours de l'année, donc si vous avez encore des dons pour 2024, n'hésitez pas à le faire, après ce sera 2025. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Oui.
Oui,
voilà, c'est ça.
On va parler, c'est vrai.
Oui. Donc, pour l'Assemblée générale de 2025, si vous n'êtes pas inscrit sur les comme membre électeur de la paroisse, venez me voir qu'on puisse faire les inscriptions. Merci.
Et nous avons eu de la chance. J'ai eu des nouvelles de mon ancienne paroisse. Ou quelques jours avant Noël, ils n'avaient pas de chauffage, ils ont fait des cultes à 11 ou 12 degrés. Voire moins. Heureusement, ils ont pour Noël, ils ont eu la grâce, ça a été réparé à temps. Je vous invite à vous unir dans cette prière d'intercession et de prendre le répond suivant, nous prions, quand je vous ferai signe pour cela. Nous prions. Pour tous les enfants partout dans le monde, afin qu'ils trouvent l'amour d'un père ou d'une mère pour les accueillir, nous prions. Pour les enfants qui souffrent de la méchanceté des humains, qui sont blessés par leur haine ou tués dans leur guerre, afin qu'ils trouvent la paix et la joie auprès de Dieu, notre Père, nous prions. Pour les enfants qui naissent infirmes avec un corps difforme ou une intelligence diminuée, afin qu'ils trouvent la beauté du cœur auprès de Dieu, source de toute splendeur, nous prions. Pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, afin qu'ils sachent que Dieu, leur Père, les aime comme personne ne peut les aimer sur terre, nous prions. Pour les enfants qui sont orphelins, afin qu'ils découvrent dans une famille qui les accueille l'amour de leur Père du ciel, nous prions. Pour les enfants qui sont heureux en ce temps de Noël, afin qu'ils apprennent à partager leur bonheur, nous prions. Pour ces enfants dont nous venons de parler, exilés, éloignés, installés en terre étrangère, installés près de nous, à Annecy, afin qu'ils reçoivent accueil, sécurité et attention au nom de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te prions que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu'il les fasse grandir en grâce et en sagesse. Et nous-mêmes, Père, garde-nous dans l'esprit d'enfance et d'humilité, afin que nous puissions un jour entrer au royaume. Nous te le demandons au nom de Jésus, qui règne avec toi pour les siècles des siècles, lui qui nous a enseigné à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Noël. Voyez de quel grand amour le Seigneur nous a aimés. Émerveillons-nous d'être ainsi aimés par Dieu. Allons dire à tous les humains, il est né Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent à jamais. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Sa lumière brille sur vous, elle éclaire le monde. Sa paix vous est donnée, elle s'étend sur toute la terre. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Bon dimanche à tous et bonne... Alors j'ai entendu deux fois la même expression cette semaine, une fois par mail et une fois bonne bout d'année, parce que c'est une expression du Sud. Bon bout d'année, c'est-à-dire vous finissez bien l'année, quoi.